En Arizona, un fourgon blindé ainsi que ses deux conducteurs s'évanouissent dans la nature. Plus aucune trace des 333 000 dollars qui devaient être distribués aux banques des environs. Les conducteurs sont-ils les auteurs du vol? Ou ont-ils été victimes d'une embuscade? Les réponses à ces questions se cachent quelque part dans le désert. Le FBI devra sonder cet immense territoire aride pour découvrir la vérité. Vous écoutez les dossiers du FBI. Guet-apens mortel. Première partie.
Le 24 mai 1977, à Phoenix, en Arizona. Les employés d'une entreprise de convoi de fonds avaient pris 333 000 dollars en espèces dans les coffres-forts de la compagnie et les avaient placés dans un fourgon blindé. Le conducteur et son collègue allaient, comme d'habitude, distribuer cet argent aux banques de l'Arizona.
Y'all about ready to go? We got a problem with this door. I think we want to take a look at it. Let me see.
L'un des deux hommes remarqua que la poignée de la porte latérale du fourgon était défectueuse. Les deux hommes signalèrent le problème à l'équipe d'entretien des véhicules avant de partir sur la route. Ce délai retarda toutefois Cecil Newkirk et Russell Dempsey d'une heure sur leur horaire habituel. Leur itinéraire s'étendait de Phoenix à Flagstaff, 240 km plus au nord. Il serait difficile de tout faire avec ce retard d'une heure. Les banques avaient besoin de ces liquidités pour répondre aux demandes de leur clientèle. À 10h30, l'entreprise reçut l'appel d'une banque où l'on n'avait toujours rien reçu. Le téléphoniste imputa ce problème au départ retardé du matin. Malgré certaines tentatives au cours de l'après-midi, il ne parvint cependant pas à rejoindre les gardiens. À 16h30, comme on était toujours sans nouvelles des deux hommes, l'entreprise décida d'appeler le FBI. Le bureau de Phoenix fit alors diffuser un message à toutes les unités de patrouille de la région, leur donnant la description du véhicule blindé. Les autorités de l'État et les services de police locaux profitèrent des dernières heures d'ensoleillement pour se mettre à la recherche du véhicule disparu. Ils ne trouvèrent ni trace du fourgon, ni des deux hommes. L'agent spécial Stephen Chenoweth, du bureau du FBI de Phoenix, aujourd'hui retraité, s'est d'abord demandé si les deux gardiens ne s'étaient pas eux-mêmes enfuis avec l'argent.
La première chose à faire, c'était d'examiner le dossier des deux hommes, afin de voir s'il n'était pas possible qu'ils soient impliqués.
Les deux hommes étaient mariés. Au cours de la soirée, un agent du FBI interrogea leurs femmes séparément. Selon elles, leur mari n'avait aucun problème financier qui aurait pu les motiver à voler cet argent. Les responsables de l'entreprise abondèrent dans le même sens. Les deux gardiens travaillaient pour eux depuis 20 ans. Leur itinéraire régulier couvrait un vaste secteur de l'État. Les autorités devraient fouiller près de 2600 km² d'une zone presque entièrement désertique. Le lendemain, des hélicoptères du ministère de la Sécurité publique refirent l'itinéraire que devait suivre le fourgon blindé. Ils survolèrent l'autoroute 17 en direction de Flagstaff en prenant soin de vérifier toutes les sorties. Ils trouvèrent enfin le fourgon à 80 km au nord de Phoenix. Il avait été abandonné à un demi-kilomètre de l'autoroute, dans un secteur isolé, près de Bumblebee. Les agents de la sécurité publique et les policiers locaux fermèrent le secteur à la circulation en attendant l'arrivée des agents du FBI. Ces derniers s'approchèrent prudemment du véhicule. Ils voulaient éviter de fausser des traces de pas autour du fourgon. Les portes étaient verrouillées. De l'extérieur, il était impossible d'établir ce qui s'était passé.
Il ne semblait pas y avoir eu de lutte à l'intérieur, mais il nous fallait absolument y entrer pour effectuer des fouilles complètes et un examen en règle du fourgon. Ce n'est que plus tard, au cours de cette matinée, qu'on nous a apporté le double de la clé du véhicule et que nous avons pu monter à bord.
La radio était toujours en marche, même si personne au siège social n'avait reçu d'appel à l'aide. On n'avait pas déclenché le système d'alarme. De plus, le fusil que l'on gardait à l'intérieur du véhicule pour parer à une attaque n'avait pas été utilisé puisque le dispositif de sécurité n'avait pas été dégagé. Les deux gardiens n'avaient utilisé aucun des outils à leur disposition pour signaler qu'il y avait eu un vol. À l'arrière, les agents trouvèrent plusieurs milliers de dollars en pièces de monnaie, mais aucune trace des 293 000 dollars en billets de banque qui auraient dû s'y trouver. Des éclaboussures de sang par terre et sur les sacs d'argent indiquaient que quelqu'un avait été blessé. Parmi les traces de pas par terre, les enquêteurs remarquèrent des traces de pneus juste derrière le fourgon. Les techniciens prirent des photos et des moulages de ces empreintes. Il était peu probable qu'un homme seul ait pu s'en prendre aux deux gardiens.
L'emplacement du véhicule, l'état dans lequel il se trouvait et tous les indices que nous avons trouvés sur la scène nous indiquaient que ce crime avait été planifié et qu'il avait été commis par plus d'une personne.
Le policier Dell Lent du comté voisin de Mojave participa à l'enquête. Cet agent spécialisé dans les narcotiques est également formé pour identifier les empreintes sur le sol. Il put reconstituer les événements à partir des traces de pas et des empreintes de pneus. Il était alors l'un des deux seuls experts autorisés à témoigner en cour, en Arizona.
Ma priorité, c'était de vérifier tout le secteur pour voir si les gardiens avaient été attirés à l'écart du fourgon et pour voir si quelque chose leur était arrivé. Nous avons donc commencé par examiner la scène à 360 degrés, ce qui incluait un tronçon de la route un peu plus loin.
Les gardiens n'étaient nulle part en vue. Mais sur une colline, près de là où l'on avait abandonné le fourgon, Lane trouva de nouvelles traces de pneus et de pas. De cette position, on avait une excellente vue de l'autoroute qu'avait emprunté le fourgon. Près du fourgon lui-même, le policier trouva deux ensembles d'empreintes de grande dimension. À partir de ces observations, il en conclut qu'au moins un autre véhicule et deux hommes étaient impliqués.
Le véhicule était descendu pour reculer près du fourgon. Ensuite, les hommes avaient saisi soit l'argent, soit les deux gardiens. C'était difficile à déterminer, mais j'optais davantage pour l'hypothèse de l'argent à cause de l'énorme quantité d'empreintes. Toutes les allées et venues avaient fini par créer un sentier de terre battue.
En examinant les empreintes de pneus de plus près, Lent en déduisit que le véhicule avait suivi le fourgon à partir de l'autoroute jusqu'à l'endroit où il avait été abandonné. Des traces encore plus profondes, qui se dirigeaient à nouveau vers l'autoroute, montraient que le véhicule était beaucoup plus lourd à son départ qu'à son arrivée. Les enquêteurs en déduisirent que, mort ou vif, les gardiens avaient sans doute été enlevés par leurs assaillants. Le FBI se tourna vers les médias pour obtenir de l'aide.
Nous avons tout fait pour que cette histoire fasse la manchette de tous les bulletins de nouvelles.
Agent spécial Steven Chenoveff.
Et que la population sache que nous étions à la recherche de ces gardiens.
La couverture médiatique provoqua des appels de témoins. De nombreux automobilistes avaient aperçu le fourgon arrêté sur l'autoroute 17 en direction nord dans la matinée du 24 mai. L'un d'eux avait même vu un agent du service de sécurité publique marcher en direction du fourgon. D'autres témoins firent des déclarations similaires, même si la marque et la couleur de la voiture de l'agent n'étaient pas toujours les mêmes. Certains d'entre eux déclarèrent que l'agent s'était garé devant le fourgon, d'autres derrière. Des enquêteurs appelèrent sans tarder le service de sécurité publique, mais aucun de ces agents n'avait arrêté un fourgon blindé sur l'autoroute 17 ce matin-là. Les agents du FBI, accompagnés de l'agent Lent, examinèrent l'autoroute 17 à la recherche de l'emplacement dont avaient parlé les témoins. Le policier trouva alors l'endroit précis où le fourgon avait été forcé de s'arrêter.
Les traces étaient récentes. Elles avaient été faites entre 24 et 48 heures plus tôt. On pouvait même voir à quel endroit un individu était descendu du fourgon. Il y avait également des traces brouillées qui montraient qu'il y avait eu du mouvement.
Des traces plus profondes indiquaient qu'il y avait eu de la bagarre près de l'arrière du fourgon. D'autres traces de pneus correspondaient aux traces du véhicule qui s'était approché du fourgon, là où on l'avait abandonné. Fait étrange, on retrouva des traces identiques un peu plus loin, devant l'endroit où le fourgon s'était arrêté. L'enquête piétina pendant quelques semaines. Puis, dans la matinée du 16 juin 1977, à 500 km au nord-ouest de l'endroit où l'on avait abandonné le fourgon, deux pêcheurs firent une découverte macabre au lac Mead. Un cadavre flottait à Debbie's Cove. Ils avisèrent aussitôt le service des parcs nationaux. Des enquêteurs se rendirent dans la baie où l'on avait aperçu le corps. Les forces policières locales travaillèrent avec les plongeurs du service des parcs nationaux. Ils s'approchèrent lentement du cadavre. Ce dernier était encore habillé. La tête et le torse étaient recouverts d'un sac de jute. Un policier retira le portefeuille qui se trouvait dans la poche arrière. La victime était Russell Dempsey, l'un des gardiens du fourgon blindé. Les plongeurs continuèrent à fouiller les eaux du lac dans l'espoir de trouver l'autre gardien, mais sans succès. Un peu sous la surface de l'eau, ils trouvèrent alors deux morceaux de bois attachés ensemble avec de la corde. Cela ressemblait à un garrot de fortune que l'on aurait fabriqué pour étrangler quelqu'un. Cette enquête pour vol était maintenant devenue une enquête pour homicide. Les enquêteurs ne disposaient pas encore de suspects. Ils savaient seulement qu'un agent de la sécurité publique de l'Arizona ou quelqu'un qui se faisait passer comme tel était peut-être impliqué dans l'affaire. Après examen, le médecin légiste du comté conclut que l'homme trouvé dans le lac avait été victime d'une crise cardiaque. On l'avait également étranglé. Les enquêteurs en déduisirent que le garrot trouvé près du corps avait sans doute servi à cet usage. Une mèche de cheveux de la victime accrochée à l'instrument étaya leurs soupçons. Les agents du FBI se rendirent au lac Mead pour y interroger les habitants de ce site de villégiature. Celui qui avait abandonné le cadavre avait vraisemblablement utilisé un bateau pour se rendre en eau plus profonde. Plus de 20 agents passèrent en revue les commerces de location d'embarcations autour du lac de 640 km². Même si personne n'avait été témoin d'activités suspectes, les agents recueillirent tous les reçus de location en espérant éventuellement y retrouver le nom d'un suspect. L'agent spécial Laird Eastend, aujourd'hui retraité de l'agence Kingman Resident du FBI, se joignit alors à l'enquête. Il nota tous les noms des individus qui avaient visité le secteur.
Il n'y avait aucune piste solide sur l'identité de l'auteur de ce crime. Notre agent assistant en charge au bureau de Phoenix a alors décidé de demander à d'autres agents du FBI de vérifier auprès de toutes les stations-service entre le secteur où l'on avait retrouvé le fourgon blindé et le lac Mead, où le corps avait été découvert.
Il y avait une distance de plus de 500 km entre les deux. En tenant compte des diverses routes d'accès vers le lac, les agents auraient à visiter des centaines de stations-service. Ils commencèrent par interroger un certain Stan, le propriétaire d'une station-service qu'ils connaissaient déjà.
I asked Stan,
J'ai demandé à Stan s'il avait entendu parler du vol. Il m'a répondu qu'il attendait juste que quelqu'un vienne le voir pour en parler. Il m'a alors raconté que le lendemain du vol, il avait dû se rendre au lac Mead avec sa dépanneuse pour dégager un pick-up qui s'était embourbé en reculant trop près du lac.
Le 25 mai, Stan avait reçu un appel de deux hommes dont le pick-up s'était embourbé à Bonnelly Landing aux abords du lac. Les deux hommes lui avaient dit qu'ils avaient trop bu d'alcool pendant qu'ils pêchaient et qu'ils s'étaient sans doute approchés trop près de l'eau. Bien que Stan n'ait vu aucun matériel de pêche dans le pick-up, il avait remarqué des marques profondes dans la poussière au fond du plateau du pick-up. Comme si on avait tiré quelque chose de lourd pour le sortir du véhicule. Stan conduisit alors les deux hommes à sa station-service. Il rédigea un reçu qu'il leur demanda de signer. Les deux hommes hésitèrent un peu avant que l'un d'eux accepte finalement de signer le document. Le nom qu'il utilisa était Michael Poland. Le propriétaire de la station-service croyait pouvoir reconnaître les deux hommes sans effort s'il les voyait à nouveau. C'était le coup de pouce qu'espéraient les enquêteurs. Les agents se mirent à la recherche du nom de Michael Poland sur les centaines de reçus des entreprises de location d'embarcations du lac Mead. Après plusieurs heures, ils le trouvèrent enfin. Michael Poland avait loué un bateau le lendemain du vol et indiqué sur le formulaire que sa destination était Bonnelly Landing. C'était l'endroit exact où le pick-up avait dû être remorqué. Les agents retournèrent au lac Mead à la recherche de nouveaux indices entre Bonnelly Landing et l'entreprise de location de bateaux située sur la rive opposée. Il n'y avait que 7 km entre les deux. C'est là que les policiers trouvèrent un autre corps recouvert d'un sac flottant à la surface du lac. C'était le deuxième gardien disparu. Avant d'être immergé, il avait été battu violemment. Le médecin légiste trouva deux marques sur sa poitrine qui correspondaient à des blessures infligées avec une arme à impulsion taser. On recueillit les effets personnels du gardien, notamment une montre qui s'était arrêtée à 22h37 le 26 mai. L'équipe de l'agent spécial Stephen Chenoweth redoubla d'ardeur pour trouver des indices au lac Mead.
En nous basant sur l'endroit où les corps avaient été trouvés et sur les courants, de même que sur le laps de temps pendant lequel ils sont demeurés dans l'eau, nous avons pu évaluer à quel endroit du lac Mead les meurtriers avaient vraisemblablement jeté les corps.
L'emplacement se trouvait à seulement une centaine de mètres de Debbie's Cove, l'endroit où l'on avait retrouvé le premier cadavre. Juste à côté d'une fosse d'une profondeur de 240 mètres, les plongeurs remarquèrent un haut fond à 3,50 mètres sous la surface. Il y avait là un sac de jute semblable à ceux utilisés pour les cadavres. Le sac fut envoyé au labo pour analyse. Il contenait la plaque d'immatriculation d'une voiture du service de sécurité publique. On trouva également deux revolvers. Ils étaient malheureusement trop rouillés pour qu'on puisse y prélever des empreintes digitales. Des pierres semblables à celles qu'on trouvait à Bonnelly Landing avaient servi à garder le sac au fond de l'eau. Les experts remarquèrent également la présence de ciment aggloméré à travers le tissage du sac. Les agents appelèrent Stan en espérant que le propriétaire de la station-service pourrait identifier Michael à partir de la photo du permis de conduire de l'un des deux hommes qui lui avait demandé de remorquer leur véhicule à Bonnelly Landing. Parmi 6 photos, Stan reconnut sans mal le visage de Michael Poland. Les agents du FBI disposaient enfin d'un suspect. Ils espéraient maintenant découvrir l'identité de son complice en le faisant surveiller. Mais si celui-ci ne semblait pas avoir de travail, il dépensait beaucoup d'argent. D'ailleurs, une moto toute neuve était garée devant chez lui. Le FBI identifia un des hommes qui visitait fréquemment Michael. Il s'agissait de son jeune frère, Patrick Poland. Celui-ci venait de s'acheter une nouvelle voiture.
Nous avons essayé d'obtenir le plus d'informations possibles sur l'argent qu'ils avaient dépensé et sur les revenus qu'ils touchaient.
Agent spécial Steven Chenoveff.
Ces deux aspects ne concordaient pas très bien. Quand ça arrive et que l'on sait que ces deux personnes ont accès à autant d'argent sans raison véritable, c'est déjà un indice révélateur.
Les agents interrogèrent le père des deux suspects et ils photographièrent son pick-up. Monsieur Pollen, père, reconnut que ses fils lui avaient emprunté son véhicule le jour du vol. Deux semaines plus tôt, il s'était servi du plateau de son pick-up pour y mélanger du ciment. Les agents prélevèrent des échantillons de la poussière encore présente pour la faire analyser. Des experts du FBI se mirent au travail. Ils comparèrent ensuite la poussière au ciment prélevé à même le tissu des sacs trouvés dans le lac Mead. Ils conclurent que celui-ci provenait du même lot de fabrication. Une fois encore, le FBI soumit Stan à une séance d'identification de photos, mais il ne put dire si Patrick Poland était bien celui qu'il avait vu en compagnie de Michael. Il reconnut toutefois le pick-up qu'il avait remorqué près du lac.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Michael Martin et Mark Marabella. Il a été réalisé par Stuart Taylor. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Kosiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Marie Agasson. Montage Johanna Lalonde. Avec la voix d'Olivier Citruc.